France Culture.
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture, c'est Soleil, le rendez-vous protestant, votre magazine proposé par la Fédération protestante de France, comme chaque dimanche matin à 8h30, à réécouter bien évidemment en podcast. C'est un pasteur qui est mon invité ce matin pour parler de son parcours et de ce qui le conduit, le pousse en quelque sorte chaque jour dans son ministère, qu'il vit à un endroit particulier. À la campagne. J'ai le plaisir de recevoir François Bergouignan. Bonjour François.
Bonjour Jean-Luc. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Et je disais François que vous viviez votre ministère pastoral à la campagne, plus exactement dans une paroisse qui porte alors un très joli nom. On se disait ça avec Vincent là au début. Vincent qu'on entendra.
Louis.
Gardon et Vidourle.
Vidourle.
Avec un chiffre en plus, 3.
Et oui, et je pense que vous seriez bien embêté si je vous demandais où se trouve le Gardon et le Vidourle.
Alors, j'ai été voir, j'ai cherché, mais je ne dirai rien, je vous laisse nous raconter.
Alors, c'est l'ensemble entre Gardon et Vidourle. Et l'ensemble entre Gardon et Vidourle comporte 7 paroisses.
Alors, Gardon-Vidourle, c'est deux...
Ce sont deux rivières. Au pied des Cévennes, ouais. Qui encadrent cette région. Et pour ceux qui connaissent le secteur, c'est Saint-Hippolyte-du-Fort, mmh. Anduze, Quissac, les Dignans.
Voilà. Alors moi je connais bien sûr avec l'Assemblée du Désert chaque année puisqu'on est dans ce secteur-là.
Bien sûr, bien sûr. Mais je ne suis pasteur que sur 3 paroisses parmi ces 7-là puisque nous sommes 3 pasteurs.
D'accord.
Et donc je suis pasteur sur la paroisse de les Dignans, Les Ans et Tornac. Voilà, il y a d'autres petits villages autour, on en reparlera tout à l'heure.
Avec un très beau château à Tornac.
Enfin, avec un très beau.
Un ancien château. Pasteur donc, mais comme une seconde vie en fait, puisque vous avez été nommé pasteur dans le Gard sur ces paroisses rurales à l'âge de 57 ans, on peut dire,
tout à fait,
en 2020.
Oui, tout à fait. Oui.
Et donc avant, il s'en est forcément passé des choses.
Ah bah oui, il s'est passé 57 années.
Je disais d'ailleurs une seconde vie, mais on pourrait presque dire une troisième. Dans les différents moments. Je vous laisse nous raconter un petit peu votre parcours.
Oui, mon parcours initial est plutôt un parcours scientifique puisque j'ai un diplôme d'ingénieur avec un doctorat en microélectronique. Mmh. Et donc, j'ai travaillé dans l'industrie de la microélectronique, d'électronique, plutôt dans le monde des start-up, ouais. Qui était plus motivant. Voilà, on est des petites familles avec des grandes idées qu'on essaye de réaliser.
C'était dans les années 80
Oui, jusque mon dernier poste, c'était en 2013.
Et oui.
Mmh. Et une autre vie en parallèle.
La deuxième,
je ne sais pas comment ouais. Il faut compter, mais j'ai été père au foyer pendant plus de 10 ans pour m'occuper de mes 3 enfants.
Et oui. Voilà. Et donc ça aussi, c'est un choix dans une carrière.
Absolument,
de prendre ce
oui.
temps-là.
Oui. Je n'ai aucun regret ni de l'un ni de l'autre des métiers. C'était passionnant. J'ai fait des rencontres passionnantes. Mais il me manquait quelque chose, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il me manquait, dans mon métier professionnel, oui. dans l'industrie, une dimension humaine que j'ai pleinement trouvée dans le métier, dans ma vocation de pasteur dans l'Église protestante unie de France.
Alors donc, je résume, microélectronique, papa au foyer, voilà. Puis reconversion, et pour finir donc, pasteur à la campagne. Les recommencements ne vous font donc pas peur, j'ai l'impression
Non, alors les recommencements me font pas peur, mais si vous me permettez de vous contredire, je parlerai pas de recommencement, mais je parlerai plutôt de nouveau commencement. Mmh. Et je trouve que ça a tout son sens quelques semaines après Pâques. On a eu Pâques il y a quelques semaines, et je trouve que Pâques est un très beau symbole de nouveau commencement,
ouais.
Une nouvelle vie qui se met en route. Et pour moi, c'est important de parler de nouveau commencement.
Ouais.
Et pas de recommencement, parce que le recommencement sous-entend qu'on refait un peu la même chose. Mmh. Alors que le nouveau commencement, on s'appuie sur notre histoire, on s'appuie sur des acquis, on peut corriger des erreurs et partir dans une nouvelle vie. Et je trouve que c'est très biblique de parler de nouveau commencement, puisque...
C'est un peu comme une nouvelle naissance.
Oui, en quelque sorte. Ouais. Mais dans l'Ancien Testament, vous avez Joseph qui a un nouveau commencement.
Aussi, oui, bien sûr.
J'ai souvent compris l'appel de Jean-Baptiste qui appelle au changement radical, mm-hmm. comme un changement, un nouveau commencement dans sa vie aussi. Mmh.
Qu'est-ce qui unifie finalement tout ça dans votre histoire ?
Bah, je crois que c'est le goût de l'humain. Je dirais, si j'ai envie de répondre simplement en quelques mots, c'est le goût de l'humain qui m'a conduit à travers toutes ces expériences personnelles et professionnelles.
Alors, on reviendra sans doute sur ce goût de l'humain quand nous parlerons dans la deuxième partie de l'émission de la spécificité d'être pasteur à la campagne, encore une fois, non pas dans une grande ville, mais avec donc un environnement particulier. Mais je voudrais revenir sur cette bifurcation, ce moment où vous choisissez donc d'aller vers la théologie. Comment s'opère le déclic ? Est-ce qu'on peut parler d'un appel intérieur, quelque chose qui se produit dans le plus fort de ce que vous êtes, ou c'est autrement ?
Alors, si vous m'autorisez à vous décevoir, je n'ai pas été touché par la foudre comme Luther. Il n'y a pas eu de déclic, d'étincelle. Mais je parlerai plutôt d'un cheminement long et d'un cheminement intérieur. Et qui a commencé finalement, si je regarde rétroactivement, qui a commencé, je dirais, dès mon adolescence. Parce que je ne suis jamais resté indifférent des pasteurs qui venaient prêcher dans ma paroisse d'enfance.
Vous êtes né dans un contexte protestant,
oui,
famille protestante.
Oui. J'habitais Évreux quand j'étais jeune et j'ai eu la chance d'avoir Alain Ouzio comme pasteur, d'avoir Louis Pernot aussi quand j'étais jeune adulte comme pasteur. Et ce sont des pasteurs qui m'ont marqué, mais en même temps, j'en gardais de très bons souvenirs, mais j'en faisais rien finalement. Et puis, j'ai été étudiant dans un lycée, j'étais interne dans un lycée catholique. Et je sais pas pourquoi, j'avais une Bible avec moi, alors que c'était pas ma passion non plus. Je me suis amusé à lire des textes bibliques, mais j'y comprenais pas grand chose, en fait. Mais ça m'interpellait aussi. Je sentais qu'il y avait quelque chose à découvrir, mais je savais pas trop comment. Et cette découverte, je l'ai faite bien plus tard. Donc, si on parle de ce nouveau commencement, j'ai une tante aussi qui m'envoyait régulièrement des articles. Elle est catholique et dès qu'elle voyait un article intéressant dans La Croix, elle m'envoyait cet article. Et un jour, elle m'a envoyé un article sur une lecture possible de la du texte qu'on appelle la multiplication des pains. Alors, et je veux dire, s'il y a eu des clics, je crois que c'est à la lecture de ce commentaire qu'il y a eu un déclic, s'il y a eu déclic.
Alors ça tombe très bien parce que, évidemment, c'est ce texte que nous allons écouter maintenant.
Quel hasard.
Un texte que vous qualifiez de fondateur dans votre parcours. Ben oui. Je vous propose que nous l'écoutions dans le cadre de notre rendez-vous avec la parole. C'est avec, en plus, la jolie voix et la belle diction d'Emmanuela RM que se propose ce passage de l'Évangile, ici selon Marc, chapitre 6, les versets 30 à 44.
Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment, à l'écart. » En effet, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un endroit isolé, à l'écart. Mais beaucoup de gens les virent s'éloigner et comprirent où ils allaient. Ils accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette foule nombreuse. Il fut bouleversé par ces gens, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme il était tard, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Il est déjà tard et cet endroit est inhabité. » Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs, s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Il lui demande, « Irons-nous dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger ?» Jésus leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils se renseignèrent et lui dirent, « Nous avons 5 pains et 2 poissons. » Alors, Jésus leur donna l'ordre de tous s'installer par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par groupe de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partagea les pains et il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. Chacun mangea à sa faim. On emporta les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 corbeilles, et les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes.
Alors, il s'agit donc de la première version de la multiplication des pains. Vous nous avez déjà un peu mis en appétit, on pourrait dire, d'ailleurs c'est le contexte le permet, avec cet article que vous recevez qui évoque ce texte. En quoi finalement devient-il fondateur dans votre parcours ?
Bien, ce texte faisait partie de tous ces miracles, de tous ces textes, dont j'avais beaucoup de mal à comprendre le sens ou à m'approprier en tout cas une explication au XXe siècle, puisqu'on était au XXe siècle encore. Et cet article, c'est un prêtre donc catholique qui expliquait que finalement on pouvait comprendre ce texte comme étant un discours de Jésus, un enseignement de Jésus qui libérait les pique-niques que chacun portait en cachette sur soi. Et du coup, ce grand repas s'est transformé en repas partagé parce que chacun, sur les enseignements de Jésus, a partagé son petit pique-nique. Et donc, c'est un grand repas partagé. Et comme chacun sait, dans une paroisse, quand on fait un repas partagé, il y a toujours beaucoup de restes.
Ouais.
Et on peut repartir. Et alors, cette explication, sur le coup, m'a beaucoup plu. Mmh. Et je me suis surtout dit que finalement, le texte biblique, eh bien, on avait le droit de l'interpréter. Parce que c'est pas marqué, en fait.
Ouais.
Mais on a le droit d'interpréter le texte biblique. Et je ne m'étais jamais autorisé à penser que le texte biblique était interprétable.
Oui, offrait cette possibilité.
Offrait cette possibilité pour
que chacun.
Oui. Et aujourd'hui, même si cette interprétation, aujourd'hui, je la suis pas.
Oui,
nécessairement, parce que ça résume l'enseignement de Jésus à une belle petite morale, bien gentillette, mais ça n'apporte pas grand-chose. Mais moi, elle m'a quand même ouvert l'esprit sur cette possibilité de lire le texte biblique autrement. Et c'est dans ce sens-là où je considère que c'est un texte fondateur pour moi, et d'autant plus que j'ai découvert après que c'est le seul miracle qui est quand même raconté 6 fois dans les 4 évangiles. C'est assez étonnant quand même que ce miracle, alors qu'on raconte qu'une seule fois la résurrection de Lazare, par exemple. Il y a plein de miracles qu'on ne raconte qu'une fois. Et lui, 6 fois. Donc, je me suis longtemps interrogé sur les raisons, en fait, de cette répétition. Pourquoi les évangélistes y donnent autant d'importance. C'est que derrière, il y a sûrement une raison. C'est que ça a dû être fondateur aussi pour les premiers chrétiens, pour le public, pour les auditeurs de Jésus ou des évangélistes à ce moment-là. Quoi.
Alors, je ne peux que rebondir sur cette idée que la nourriture, en plus, est quelque chose d'extrêmement important dans le texte biblique.
Et que vous aimez aussi, je crois,
Jean-Luc. Et que j'aime plutôt bien et analyser dans ces récits d'autant plus. Et cette idée de nourrir concrètement des hommes, des femmes, des enfants, avec une dimension spirituelle derrière, métaphorique, qui est là, évidente, c'est quelque chose d'extrêmement parlant, en effet.
Eh bien oui, et le pain, comme on le sait, quoi, le pain est quelque chose de très important dans la symbolique biblique.
C'est Jésus se présentant comme le pain de vie.
Ben oui.
François, avec nous, on l'a dit en début d'émission, dans ce studio, Vincent Smetana, un habitué qui a toujours le mot pour dire. Alors, quel mot et puis pour dire quoi, Vincent? Nous allons vite le savoir, c'est à vous.
Alors, vivre à la campagne, hein, on parle de ça, vivre à la campagne, les amis. Vive la vie à la campagne, allez, barbecue avec du vrai bois, pas ces barbecues bidons avec du gaz ou du charbon chinois. Non, à la campagne, rien n'est chipoté, tout semble plus vrai. Jamais, en effet, la dévotion n'est excitée plus vivement que dans la solitude de la campagne. 1000 dégradés de ciel, 1000 êtres vivants et tant de choses qui happent nos regards et nous obligent à les fixer à hauteur de leur hauteur. Un sentiment plein de douceur, hein, qui nous attache à les contempler, toutes les dimensions du vivant déployées pour notre plus grand bonheur, pour favoriser le recueillement, pour élever l'âme, puissions-nous alors nous laisser guider sans effort vers l'auteur suprême de toutes ces merveilles. C'est joli, hein?
Oui.
Vas-y, c'est pas de moi. Vous avez remarqué, le puissions-nous, hein, c'est pas trop mon style. Non, j'ai déniché ça dans un très charmant discours. Alors, ça s'appelle « Discours familier d'un pasteur de campagne » de Jean-Isaac Samuel Salérier, milieu du 19e genre, émouvante collection de discours sur, justement, l'émerveillement d'être pasteur dans les champs. Pasteur dans les bois et les clairières, pasteur dans les villages reculés, pasteur dans les ruelles et dans le ventre des vallées, car à quoi bon changer de vie pour se reculer en campagne, se saisir à bras le cœur d'une vie rurale, sinon pour tout ce bien, dirait-on. On fait pas le point, hein, Jean-Luc, moi avec mon balcon de 7 mètres carrés et demi, vous avec votre jardin de province bien tendu, là, non, c'est pas de ça dont on parle ici. Ici, on parle d'amplitude, de vastitude, d'authenticité, sans cabaner, genre vivre en oiseau, goûter la parole de Dieu en lui touchant le museau.
Oui. Vastitude, je retiens. Mmh. Et puis je suis certain que François Bergouignan est preneur de la référence de ce bel ouvrage, oui. N'est-ce pas François?
Mais oui, tout à fait, je vais m'empresser de le lire.
Vous voyez, donc, ruralité, allez, ruralité, non féminin, de rural avec le suffixe IT. C'est un néologisme, en fait, qui désigne le fait d'habiter à la campagne, hors des villes, loin des villes. On a peine à imaginer que ce mot, mis aujourd'hui à toutes les sauces, était encore, voilà quelques années, parfaitement inconnu. Seul était utilisé l'adjectif rural. On parlait de milieu rural, habitat rural, exode rural, c'est-à-dire de routes boueuses, des mares, de fumier, des brumes splendides courant paresseusement le long des d'oiseaux nichés dans les vergers, de cotylédons, tomates, melons, vaches, petits poneys et jolis cochons, sans oublier le foyer rural, hein, qui servait de patronage, oui, et de salle des fêtes pour les tournois de fléchettes, les rumbas du mardi, les premiers slows, les majorettes, le foot du samedi, les pains saucisses et les bières tièdes, donc oui.
Et le loto.
Et le loto. Ah oui.
Le loto, comment ai-je oublié? Jaillit d'un discours bucolique magnifié, apparaît soudain, inventé par qui? La ruralité. Mot abstrait, mot hors sol, technocratique, ministériel, énarque pour tout dire, écrit le chroniqueur Alain Raymond. Que veut dire ce mot conforme au jargon d'une époque? Comme dans cette formule typique, hein, les acteurs de la ruralité dans leur territoire.
Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire alors? Le pasteur peut-être comme acteur de son territoire?
Mais peut-être ceci, et si. En se rapprochant et en s'inspirant du vivant, on pouvait dégager un nouveau modèle, celui de la robustesse, comme le dit le biologiste Olivier Hamant, choisir de vivre à la campagne pour apprivoiser un mode de vie et de pensée nouveau, robuste et généreux, et non performant. Pas remplir des églises, faire du nombre, faire du chiffre, allez, en tirer amour, gloire et fierté, non. Au contraire, choisir d'aller lentement, amoureusement à la rencontre du vivant, d'une manière désintéressée, pleine, respirante, débarrassée du culte de la performance. Quitter l'optimisation frénétique des modèles pour entrer dans le monde du respect de notre tempo et de celui des autres, respect de notre ontologie et de nos liens. Quitter ce modèle épuisé et inepte de l'optimisation construit sur la pauvreté des interactions pour entrer dans un mode relationnel fondé sur la richesse et la diversité des liens. Inversion totale des modèles connus, exploration du monde à l'envers, c'est ce que propose Jésus en fait.
Je souris en vous écoutant, en me disant, Vincent, que je vous imagine tellement bien dans la peau d'un pasteur de campagne, ou plus simplement comme un acteur de votre territoire.
Et j'aime assez, j'avoue. Ralentissement du temps, plénitude des saisons, odeur de chêne, de fougère, de foin coupé, vase tiède de l'étang sous le pied, truite habile au fil de l'eau, j'ai courlis, renard, grenouille, biche, agneau, ce panier de champignons qu'on partage, ce semis qu'on échange, profondeur de l'écoute au-dedans, car délice du silence au-dehors, toutes ces choses n'éveillent telle pas en nous l'idée de l'infini. Ça va, Vincent, c'est exagéré, là. Mais non, prenez un ticket Ouigo en promo, allez quelque part au milieu de la ligne, descendez et prolongez en TER jusqu'à la gare la plus délaissée, la plus délicieuse, et garez-vous en chemin sur ce chemin petit, bordé d'orties et de pissenlits au-delà du quai, et considérez cette vaste ordonnance. Cette harmonie qui ravit l'essence et prépare à l'émotion, là votre esprit reconnaît le divin et l'accueille. Donc alors, mince, pour ceux qui, comme moi, aiment aussi beaucoup la cité, que faire?
Mais oui, que faire?
Que faire? Eh bien ceci peut-être, vivre sa foi, les pieds dans son territoire, point. En devenir artisan, La besogner, la retourner, la fatiguer, la creuser, la manger, la remâcher, la ruminer pour la laisser déployer son goût, son sel, son miel et son humeur. Et de cette joyeuse humilité, toute la saveur. Dieu mit l'homme dans le jardin pour le cultiver. Ainsi, la vie au grand air fut la première destination de l'homme et ses premiers plaisirs. Il semble que Dieu ne vit rien de plus propre à le rendre heureux. Puissions-nous en considérer la splendeur et le ravissement ? Ah, là j'ai dit, puissions-nous, donc.
Vous l'avez bien dit et je me permets de le répéter. Puissions-nous, en effet, en tout cas on a appris que vous aimez la cité, mais que vous investissez parfaitement le territoire. Merci.
Je l'espère.
Merci Vincent. On entre dans cet autre sujet qui vous concerne, pasteur François Bergouignan, cette ruralité, cette façon d'aborder la vie que vient d'évoquer Vincent. Vous voulez réagir
Oui, j'ai été surpris que Vincent ne compare pas le monde rural au jardin d'Éden, finalement.
Oui, c'est...
Avec ses arbres, alors il y a peut-être des arbres interdits, je ne sais pas.
Et quelques serpents qui se promènent quelque part.
Non, oui, il y a quelques mots qui ont résonné dans votre présentation, c'est le mot « rencontre ». Et effectivement, je crois que un des aspects du ministère rural, c'est la rencontre authentique, la rencontre de près, la rencontre où on a le temps de se rencontrer, où on prend le temps de se rencontrer.
On retrouve peut-être finalement, en vous écoutant là dans ce que vous dites, dans votre réaction à la chronique, un peu l'image d'Épinal que l'on peut se forger du prêtre ou du pasteur à la campagne, c'est-à-dire cet homme qui va à la rencontre des paroissiens, qui les aide dans des tâches nécessitant un accompagnement, qui va boire un verre, qui mange avec eux, qui les écoute. Est-ce que ça ressemble à ce que vous vivez ?
Oui.
J'ai l'impression que c'est pas vraiment comme ça qu'un pasteur est à la ville, généralement. Il reçoit davantage au bureau. Et...
Voilà, exactement. Je n'ai pas de bureau, par exemple. Et mon bureau, c'est la maison des paroissiens. Et quand je fais des entretiens pastoraux pour préparer des mariages, des enterrements, des baptêmes, je vais chez les gens. Et on les rencontre chez eux, dans leur environnement. Et je découvre des environnements que je n'imaginais pas. Et pour cela, je me sens beaucoup plus proche de chez eux, alors qu'à la ville, effectivement, les personnes viennent au bureau du pasteur dans le centre-ville. Et c'est peut-être une des différences. Je crois qu'une autre grosse différence du métier de pasteur en monde rural, c'est que nous sommes le dernier, ou vraiment un des derniers services de proximité.
Oui, oui.
Pour les personnes qui habitent en monde rural. Mes paroissiens ont du mal à trouver des médecins. Ils sont obligés d'aller à Montpellier, à Nîmes, à Alès pour avoir un médecin. Les bureaux de poste ferment les uns après les autres. Les petits magasins de proximité ferment. Je mets un point d'honneur au fait que l'Église est ce dernier service de proximité que l'on propose aux personnes. Et quand quand on m'appelle pour une visite, j'essaye, dans la mesure du possible, d'y aller rapidement, parce que je pense que ça fait partie de notre vocation du ministère pour annoncer l'évangile sous cette forme-là. Et je crois que Jésus l'a fait, en fait, tout au long, quand on lit les évangiles, il se déplaçait vers les gens. Et évidemment, il y a des gens qui sont venus vers lui, mais il s'est beaucoup déplacé pour aller à la rencontre des gens. Il n'attendait pas nécessairement dans son bureau que les gens viennent à lui. Et pour moi, c'est une grande particularité du ministère en monde rural.
François, dimanche prochain, Solae se délocalise, mais alors pas vraiment pour la campagne, ce sera le Festival de Cannes, donc très différent. Nous serons en direct à 8h30 depuis le studio de Radio France, dans le marché du film, pour une émission spéciale autour du cinéma et de la foi. Alors ce matin, pour déjà flirter en quelque sorte avec le sujet, je vous propose d'écouter cette bande-annonce d'un grand classique cinéma français, tout à fait en phase avec notre sujet de ce matin, Journal d'un curé de campagne, de Robert Bresson, sorti en 1951 et inspiré du roman éponyme de Georges Bernanos.
Ce que vous avez promis de faire, c'est aujourd'hui même. Demain, il sera trop tard.
L'Église s'en moque que vous soyez aimé, mon garçon. Soyez d'abord respecté, obéi.
N'avez-vous aucune crainte de Dieu ?
Je la tuerai, ou je me tuerai.
Je ne fermerai ma porte à personne aussi longtemps que je serai curé de cette paroisse.
Elle prétend que sa mère a résisté jusqu'au bout.
C'est
paroissiens vous occupent beaucoup, monsieur le curé. Une paroisse pourtant si petite.
En quoi me suis-je trompé?
Tu t'agites trop. Tu as l'air d'un frelon dans une bouteille.
Je ne crois rien faire de mal en notant ici au jour le jour, avec une franchise absolue, les très humbles, les insignifiants secrets d'une vie d'ailleurs sans mystère.
Les paroissiens vous occupent beaucoup, dit cette dame à ce jeune curé de campagne. Un parcours difficile pour lui, mais à la fin, ses derniers mots face à la mort seront tout de même « Tout est grâce ». Cette grâce, vous la ressentez?
Oui, absolument.
De quelle façon?
Oui, mais déjà, je rebondirai sur l'idée que les paroissiens m'occupent beaucoup, parce que même quand je ne suis pas avec eux, je pense à eux beaucoup. Mm-hmm. Je connais des situations familiales de beaucoup d'entre eux, donc j'y pense en permanence. Et quand il y a des situations familiales préoccupantes, je me dis, mais comment pouvoir aider? Comment leur apporter du soutien? Donc oui, c'est un ministère. Je ne dis pas qu'un pasteur en ville ne pense pas à ses paroissiens, hein, mais en tout cas, en ce qui me concerne, dans mon ministère rural, les paroissiens sont beaucoup plus que des paroissiens, je crois. Et dans ce sens-là, du coup, ils deviennent ma préoccupation quasi permanente. Mmh. Même si, à la différence d'un curé qui n'a pas de famille, j'ai aussi une famille, donc oui. Ma famille est aussi une préoccupation.
Merci beaucoup, François Bergouignan, pour ce témoignage partagé. Merci d'avoir affronté la grande ville en venant à la Maison de la Radio à Paris aujourd'hui. Merci aussi, Vincent. On vous retrouve à nouveau dans l'émission du jeudi de l'Ascension, le 29 mai prochain, avec la pasteur Anne Faisandier. Au revoir. Et je vous propose, pour nous séparer en écho lointain à la campagne que nous évoquions, le titre Gospel Plow, un spiritual basé sur Luc 9, 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. L'allusion à la charrue fait clairement référence ici à la condition d'esclave des Afro-Américains travaillant dans les champs. On peut supposer que ce message spirituel était un message d'encouragement lié à l'enseignement de ces paroles du Christ, selon lesquelles continuer à labourer, c'est être apte à entrer dans le royaume de Dieu. Charlie Parr, Gospel Plow. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé ce matin par Thomas Jost et avec Tahar Boukifa à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestant-au-pluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2, 10h midi, ce matin, une matinée spéciale de présence protestante avec le jour du Seigneur depuis le camp de Flossenbürg en Allemagne pour commémorer la libération des camps. De 10h à 10h30, Présence Protestante rediffusera le documentaire Dietrich Bonhoeffer, Le Courage d'une Conviction, puis le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération Protestante de France, assurera l'homélie de la messe proposée par Le Jour du Seigneur. Mais en attendant, ici, sur Culture, dans quelques instants, Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après les informations de 9h. Très bon dimanche à chacune et chacun, et rendez-vous donc dimanche prochain, en direct, depuis le Festival de Cannes. Jesus said, I worship not, you got no savior in this life. Keep your hands on that plow, hold on, hold on.